This evening, ladies and gentlemen, I'd like to send a message out there to all the Hawaiians. And all the Hawaiians at heart, take responsibility for all our kuleana. Because our culture is suffering. Our children out there, late night time, hanging around 7-Eleven, bus stop, making hoka and hanaino. Our parents and adults, take responsibility. Malama ra kuleana kwa o keiki. And to all of you, all the children, all the teenagers on every island, what is in a rag? It's for blohana barakas. Wake up. I'm speaking from personal experience. I'm making a call out to all my brothers out there. Smoking a batu, dealing a coke. Stop all the Koreans from being in the stock. We stop the demand.
Amis de Radio Silence, c'est sur cette musique nostalgique de Ease. Israël, que je reprends la chronique un peu avant l'heure, mais c'est déjà la rentrée. Hein. C'est nostalgique parce que Iz fait référence à la culture hawaïenne qui se perdait un peu et il attire l'attention des jeunes de comment dire, reprendre possession de leurs racines, de leur culture, de l'héritage que les ancêtres leur ont légué et qu'il fallait surtout éviter de s'en écarter en succombant notamment à la drogue parce que c'était un véritable appauvrissement. Bon, alors, pour cette rentrée, il y a, oh là là, durant le mois d'août, il y a eu un débat très intéressant aux États-Unis. L'Amérique, elle est riche quand même du nombre de débatteurs qui peuvent apporter quelque chose hein, dans le débat. Il n'y a pas seulement les médias classiques qu'on connaît là, les envahisseurs. Il y a tout ce qu'on appelle les think tanks, même si c'est des brothers. C'est-à-dire c'est un peu du pareil au même, mais quand même c'est un peu différent. Il y a des voix différentes et dissonantes qui peuvent s'exprimer, même si c'est dans un affrontement brutal parfois. C'est pas l'hypocrisie à la française, où on contredit personne, où le consensus mou fait que le politiquement correct stérilise tout. C'est les médias qui font la pluie et le beau temps. Un jour, ils supportent Macron. Le lendemain, ils vont le harceler. Et après, ils vont s'en moquer parce que Macron est allé porter plainte. Bon, Macron, il apprend. Il a pactisé avec le diable. Il faut savoir, les médias, c'est le démon. Carrément, c'est un démon, ils sont démoniaques, ils vivent que de sang, ce sont de vrais vampires, et si vous ne leur donnez pas leur livraison de sang, ça veut dire quoi? Vous étalez votre vie, votre intimité, tout ce qui ne relève pas du tout de l'espace public ni du débat, vous le mettez en scène comme cela, et eux, ils vivent que de cela parce que c'est des médiocres, il faut dire ce que c'est, et... La médiocrité se nourrissant d'elle-même, Monsieur Macron, il est nouveau, il apprend le business, il apprend le métier. Mais je lui souhaite bon courage parce qu'il va voir encore pire.
Some very good friends of mine in Halawa, high security. They're doing time for life. They done the wrong. They may have took some lives. But when you put Jesus in your heart, you're born again. All the opal are gone. You're like a brand new baby. So just with that, you know, something for you guys to think about. Love each other, malama, take care. Stop the dope, bro.
Bien, stop de dope, arrêtez de vous droguer. Mais ça, dans les médias, on se drogue comme pas deux. C'est ça qui fait d'ailleurs marcher le métier, le business. Bien, laissons les médias à Macron, hein, parce que finalement, ce sont quand même ses amis. Ils ont tout fait, vous avez vu, hein, pour éliminer Fillon, il s'est surmis. Macron, à ce moment-là, il était le bénéficiaire. Aujourd'hui, bon, encore que c'est du cinéma, tout ça. C'est du cinéma parce que ce qui est plus important, c'est ce qui vient de se passer aux États-Unis, à Charlottesville. Là, vous avez vu une manifestation se transformer en une boucherie où quelqu'un vient comme ça et rentre dans les manifestants, une voiture, c'est comme une voiture bélier, c'est absolument hallucinant et fait des dégâts, des morts, des blessés. Et tout ce qu'on a à dire, c'est que oui, mais le président Trump, il n'aurait pas dû s'exprimer de cette façon-là. On dit qu'il fallait qu'il condamne les ceux de la droite, là, le Ku Klux Klan et puis tout ce qu'ils appellent la white supremacy pour leur brutalité. Il est vrai que celui qui vient et qui cogne, il serait de ce camp-là. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Et on est en plein dans cette supercherie à laquelle nous assistons depuis maintenant, depuis 1980, sans voir de quoi il retournait. C'est que l'affrontement, il se passe quoi? Le président Trump le dit, les gens sont allés de droite, les conservateurs qui ne veulent pas que leur pays soit géré depuis l'étranger, sont allés manifester parce qu'on est en train de faire tomber les statues de l'histoire les unes après les autres. Et ça, c'est pas normal. L'histoire des statues qu'on fait tomber comme cela, ça date du drapeau confédéré qu'on a fait tomber en quelque sorte à la suite du petit jeune qui allait descendre neuf paroissiens à l'église Emmanuel Church. Bon, c'était quand même extraordinaire qu'un petit jeune comme ça, lui aussi, avec un profil très fragile, parce qu'il fréquente, ils font un repérage, hein. Le gars, il fréquente, le petit jeune, il fréquente des sites nazis, néo-nazis, il est d'extrême droite, il baigne dans une culture raciste, mais c'est pas de sa faute, c'est l'environnement, c'est l'éducation qui est pas faite à la base. Ça date de là, et du coup, on se met maintenant, comme cela, on décide d'enlever tel statut, d'enlever l'autre, sous prétexte que c'était un raciste, celui-là, c'était un esclavagiste, c'était cela. Trump, il demande jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on ira jusqu'à enlever la statue de George Washington? Parce que c'est comme De Gaulle, c'est comme Victor Hugo, ce sont des gens personne n'est parfait, hein, qui ont fait l'histoire de l'Amérique et en même temps, ils étaient plus ou moins esclavagistes, comme De Gaulle était colonialiste, comme Victor Hugo aussi. Mais doit-on effacer Victor Hugo de l'espace, je sais pas, ne plus le. Enfin, c'est absolument hallucinant ce qui se passe. Donc il est normal que Trump pose la question. Quand il pose la question, on dit oh là là, il a mal jugé l'affaire. Il fallait tout simplement qu'il condamne la violence extrémiste venant de la white suprématie et que ses propos ne sont pas acceptables. Le problème, c'est que on peut aller au fond de l'affaire. Et si on va au fond de l'affaire, on verra quoi? On verra que les gens de droite, quand ils vont manifester, c'est qu'il y a une forme d'exaspération. Depuis que Trump est élu, les gens de gauche, ils n'arrêtent pas de faire des manifestations, de faire du bruit, de contester tout. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer une forme de confusion et de malaise dans une démocratie qui est quand même pourtant réglée. Un président élu, il est élu, on revient pas là-dessus. Alors, ce malaise-là permanent et cette sensation comme ça de vouloir imposer leur volonté malgré les élections fait qu'il y a un ras-le-bol de l'autre côté. Et quand eux, ils vont manifester, donc légitimement, c'est légitime d'aller manifester, c'est des droits civiques, je ne suis pas d'accord qu'on enlève ces statues-là parce qu'elles font partie de l'histoire. Les contre-manifestations de gauche s'organisent et viennent et créent un bazar comme pas possible. Et dans tout cela, il est aussi fort à parier que c'est les mêmes, parce qu'ils vous posent un piège, c'est les mêmes qui ont monté le gard de l'autre côté. En même temps, ils sont des deux côtés. Vous allez demander, il est qui? Mais il, c'est justement pour cela que les gens de droite manifestaient, c'est-à-dire qu'ils manifestaient contre une idéologie rampante de l'occupation qui ne se montre pas, qui ne s'affirme pas, mais qui vient en avançant masqué, n'est-ce pas, avec des formules comme la white supremacy, qui vraiment était une formule, peut-être avant elle avait du sens, aujourd'hui elle n'en a plus. Les whites souffrent, les blacks souffrent. On voit bien que de l'autre côté de la gauche terrorisante, parce que l'idéologie, c'est celle, est devenue occupante, elle est devenue vampiriste, si je peux le dire comme ça, elle est devenue terroriste. De ce côté-là, on n'a pas que les blancs, on a aussi les noirs et tout le reste. Ça donne quelque chose d'absolument cynique. Pervers et qui est complètement imbuvable. C'est vrai, on ne peut pas soutenir le gars qui vient en voiture et qui fout tout en l'air. Non, on ne peut pas le soutenir, mais déjà la police, elle était où? Parce que quand on manifeste sur le chemin, a priori, il n'y a pas de véhicules qui puissent rentrer comme ça librement avec cette violence, les faire ce carnage. On ne sait pas. Les responsabilités ne sont pas définies, mais la gauche, qui est le véhicule de cette idéologie de l'occupation, n'arrête pas d'introduire la confusion dans les esprits, d'entretenir cette confusion et surtout de faire le procès d'intention permanent, non pas sur les actes, mais sur la façon selon laquelle vous allez vous exprimer ou pas.
It's a thin curtain. It's only temporary. Us guys, it's forever. Our ancestors before them. So I do this song for you guys. It was written by my brother-in-law, Moon Kawakahi. To Marissa and my brothers, John and Jerome, to all the rest of the Maka sons of Nihau, past and future. I do this song in commemoration for another Hawaiian brother.
Alors certains vont se demander c'est quoi la logique d'occupation? C'est une excellente question. Si vous ne l'avez pas vu cela, c'est que vous êtes, je ne vais pas dire aveugle, mais déjà borgne. Mais si vous avez pu constater que les élections ne marchent plus comme avant, que tout est devenu trafiqué, c'est la logique d'occupation. Si vous avez pu constater que le débat a foutu le camp et qu'il n'est plus possible d'émettre un avis différent de celui qui est tenu par les nouveaux, comment on va les appeler, les inquisiteurs, les censeurs, ça veut dire les médias et consorts, c'est la nouvelle occupation. Si vous avez vu que tout se règle à coups de guerre, et que voilà, un pays peut rien dire, vous n'êtes pas d'accord, on vient, on vous bombarde, c'est l'occupation. Si vous avez lu surtout le scandale qui vient d'être publié par The Intercept, qui a intercepté des emails, qui montre quoi un peu à la Wikileaks, qui montre que les think tanks américains, en fait, ils nourrissent la guerre. De quelle façon? C'est comme toutes ces ONG, pardon, qui sont financées par les milliardaires. C'est tout un marché offshore des paradis fiscaux. Vous avez vu la vache sacrée dont personne ne parle parce qu'elle irrigue tous ces gens-là. Alors, comment ça se passe? Exemple, l'Amérique vend les armes au Qatar, via les sociétés en charge de cela, parce que parfois c'est même pas l'administration qui le fait directement, c'est encore je sais pas comment on les appelle, des intermédiaires. Le Qatar encaisse une partie de la enfin encaisse reçoit une partie des armes et envoie l'argent, et l'autre argent est détourné, 20% environ, mais cette fois-ci on parle de 20 milliards, détourné dans l'offshore pour le même paiement. Mais cet argent-là n'arrivera pas aux vendeurs d'armes. Il arrivera finalement par un biais, voilà, c'est alambiqué, il arrivera finalement à un think tank américain très en vue à Washington, D.C. Des gens très bien, vous les voyez costumés, voilà, qui iront après siéger le Congrès, faire du lobbying pour que les hommes, les parlementaires, votent toujours pour la guerre. Donc, vraiment, alors là, c'est le. le serpent de mer, c'est la haute mafia, mais tout cela est organisé autour du complexe militaro, là, qu'on appelle, hein, vous savez, l'arme, le truc de guerre. Et là, les armes, ça devient l'essentiel de l'économie. On ne réfléchit plus. On fait la guerre, on détruit partout et tout le monde vit de cela. Pourquoi voulez-vous qu'on réfléchisse? Alors c'est un système qui entretient la médiocrité, ce système de l'occupation. Les médias, ils sont là, non pas pour vous faire l'information, c'est une couverture, comme tout ce qui fait partie de cette occupation. Ils sont là pour entretenir une illusion de démocratie. Il n'y en a pas, mais pendant ce temps-là, on vend les armes, on tue, on fait de l'argent. Et dans ce circuit de l'argent, vous n'êtes enfin, je vais dire, vous comptez que pour du beurre. Ça, c'est la logique de l'occupation, mais il y aurait beaucoup d'autres exemples. D'ailleurs, le débat aujourd'hui, quand vous attaquez un homme politique, vous lui parlez politique, il vous répond par votre vie personnelle, éventuellement par vos défauts, genre vous êtes trop âgé, genre vous pouvez pas prendre l'avion parce que vous êtes trop pauvre. Je ne sais pas si vous voyez un peu des gens qui auraient voulu être président de la République, à un niveau de bassesse lamentable parce que figurez-vous que même la rue, là, si vous voulez avoir la logique d'occupation, la rue, les panneaux publicitaires que vous voyez à la rue, là, il y a des caméras qui vous filment. Ces panneaux publicitaires renvoient quoi quand c'est des gens comme moi qui ne sont pas d'accord avec eux? Ils vous renvoient votre propre vie privée, pas professionnelle, je vous en prie. Enfin, c'est-à-dire, tout ce qui est cynique, qui peut vous faire mal, c'est des gens qui sont mauvais, c'est la logique d'occupation, c'est des gens qui détruisent les personnes, c'est des gens qui captent l'oxygène, c'est des gens qui sont là, qui foutent, je veux dire, qui filent les maladies aux gens parce qu'ils créent l'angoisse, ils créent du stress. La logique de l'occupation, c'est la logique de la raréfaction, c'est la logique de la sécheresse. On a parlé de ces choses-là, c'était formidable aux États-Unis. Ça plaît pas, mais au moins on en a parlé. Qu'est-ce que je vais vous dire, moi? Il suffit d'avoir les yeux pour voir la logique de l'occupation, comment elle s'exprime. Et elle passe par cette gauche terroriste qui a les caméras installées, je l'ai déjà dit, dans les, vous savez, dans les urnes, là, quand on sort, on dit oui, les sondages, on dit, ils sont exacts, machin, tout ça, comment on dit ça, les prévisions. Et c'est pour ça, Mélenchon, j'ai un regret, hein. J'aurais dû soutenir Mélenchon dès le premier tour, il serait président de la République aujourd'hui. C'est le seul regret que j'ai pour cette campagne. C'est rare que j'ai des regrets, hein, parce que ça fait quand même longtemps que que je roule ma bosse et que tout le monde rigole. Mais il y a des résultats. Franchement, il y a des résultats. Et on voit qu'on est en train de soulever des montagnes. Bien, je vous laisse avec cette belle chanson de Raleo. Raleohano, je ne sais pas comment le dire, le Hawaï. Et avec Ease, qui est décédé, on pense à lui. Parce que ça, c'était des grands artistes. Avec l'autre logique d'occupation aujourd'hui, ce genre d'artistes, vous n'êtes plus près d'en revoir.